Slate Podcast.
Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.
Vous vous souvenez de ces rêves, quand vous étiez petit, dans lesquels vous étiez en train de parler, sans que personne ne vous écoute ? Vous vous mettiez à crier, vous vous époumoniez, et ceux auxquels vous vous adressiez continuaient de parler entre eux, à côté de vous, sans vous entendre, sans vous voir. Vous le sentiez jusque dans votre gorge, serré, noué, et vous vous réveillez épuisé d'avoir tellement tenté d'être entendu. Ce rêve qui dit notre terreur de ne pas être considéré. Imaginez que ça vous soit vraiment arrivé. Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr, produit par Louis Média. L'épisode d'aujourd'hui est signé Cyrielle Bédu.
J'ai l'impression que c'est dur d'être écoutée, d'être véritablement écoutée, pas d'être écoutée juste en surface. J'ai l'impression que c'est compliqué. Et moi, j'essaye au maximum, à l'inverse, d'écouter les gens et de leur donner du temps de parole, parce que je sais à quel point ça peut être destructeur de ne pas se sentir écouté. Quand j'étais adolescente, j'étais une gamine super rebelle. J'avais les cheveux roses, je me faisais des piercings partout. Après les cheveux roses, j'ai eu les cheveux verts, j'ai eu des dreadlocks. Je changeais à longueur de temps de couleur de cheveux, c'était... J'étais le genre de gamine qui écoutait du punk et du métal. Et j'étais en conflit total avec mes parents. Ça se passait extrêmement mal. J'ai grandi dans une famille avec deux parents qui étaient extrêmement violents l'un envers l'autre. Violents verbalement, violents physiquement. C'est-à-dire que mes parents se tapaient, en fait, tout le temps. Et j'ai vécu dans l'angoisse que l'un ou l'autre meure, en fait. Une engueulade dans les escaliers, paf. L'un ou l'autre se pousse, il n'y en avait pas un qui était plus violent que l'autre. Je ne peux pas dire que mon père tapait ma mère ou que ma mère tapait mon père. C'était vraiment un truc réciproque. Moi, j'étais incapable de savoir s'ils s'aimaient ou s'ils se détestaient. Je devais avoir entre 9 et 10 ans. Et comme d'habitude, pour une raison X ou Y, une engueulade éclate entre mes parents. Et ils commencent à se hurler dessus, à se taper, etc. Et il y avait vraiment des cris qui sortaient de la maison de tous les côtés. Et il y a un moment, ça sonne. Mes parents continuent à s'engueuler. Je leur dis, ça sonne. Et je vais ouvrir la porte. Et là, c'est les flics qui sont là et qui demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? La police explique que c'est les voisins qui ont appelé parce que ça fait un boucan de fou et que le quartier a l'impression qu'il y a eu un meurtre ou qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Donc en fait, la police nous dit tout simplement qu'on inquiète tout le monde et qu'ils sont bien obligés de venir voir qu'est-ce qui se déroule dans cette maison. Bon, mes parents sont descendus, évidemment honteux, en disant qu'il ne se passait rien, qu'ils s'engueulaient, qu'il y avait donc des crimes et que... Il n'y avait pas de problème. J'ai une petite sœur aussi qui a été témoin de cette violence. Quand mes parents s'engueulent, ma petite sœur, elle a une réaction très différente de la mienne. Elle va dans sa chambre, tout simplement. Et soit elle joue toute seule, soit elle étudie. Donc son truc à elle, c'est vraiment de se mettre à fond dans l'école, de faire ses devoirs pour essayer de... En fait, d'oublier la situation. Elle ferme sa porte, elle claque tout le temps la porte. Et elle ne veut pas qu'on la dérange. Quand j'ai des amis à la maison, c'est souvent gênant parce que mes parents en ont absolument rien à faire, qu'il y ait des gens ou pas, finalement. Ils ont dépassé ce stade depuis bien longtemps. L'engueulade peut éclater à n'importe quel moment, entourée ou pas. Ça peut être devant des amis ou au restaurant, qu'importe. Et quand j'ai des amis à la maison, ça hurle, ça crie. Et mes amis sont généralement choquée. Mes amis ont peur, en fait. Et je suis obligée de leur expliquer que, bon, c'est la routine, rien de grave, ça se calme dans 5 minutes. Et mes amis tentent de me faire réaliser qu'il y a un gros problème et qu'il y a un climat de violence. Et parfois, mes amis n'ont pas toujours envie de revenir chez moi parce que mes amis ont peur de mes parents. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai pété un câble. C'est-à-dire que jusqu'à là, j'étais une enfant très polie, très sage. Je disais jamais rien. Et puis, il y a un jour, en fait, où j'ai débarqué dans leur chambre et ça y est, je les ai insultés. Je leur dis, mais toi, t'es un gros con et toi, t'es une sale conne. Vous insultez à longueur de temps, moi, je vais vous insulter. Et mes parents me regardent, ils comprennent pas du tout ce que je viens de dire, pourquoi je dis ça. Et ils me disent, mais c'est pas du tout une façon de parler à des adultes. C'est quoi ce comportement? Et disons que ça a été le début de mon adolescence. Ils ont enfin divorcé. J'avais 14 ans quand ils ont divorcé. Je vais vivre avec ma mère. Et il y a une sorte de transfert de violence qui se met en place. Je m'engueule très souvent avec ma mère le soir. Pour tout et n'importe quoi, on se hurle dessus. Je finis par lancer des assiettes par terre, à taper les murs. Parfois, on se tire les cheveux avec ma mère. Enfin, c'est un peu la catastrophe. Et ma mère a un assez bon réflexe, finalement. C'est de temps en temps, elle essaye de couper le truc pour que ça n'aille pas plus loin. Et elle prend ses affaires et tout d'un coup, elle va faire un tour. Généralement, il est quand même 21h, 22h, ce genre d'heure. Elle part, elle prend son sac et puis elle revient 2-3 heures après. Et moi, je supporte pas quand elle fait ça parce que tout d'un coup, je me sens ultra seule au monde. C'est-à-dire que tout retombe et je commence à avoir des pensées noires. Généralement, je me dis que j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Enfin, je pleure. C'est incontrôlable. Ma mère aime bien se promener dans les parcs, dans les forêts, dans les bois. Et ça m'angoisse énormément. J'ai peur qu'il arrive un truc à ma mère. Et je m'en veux. Et je me dis, mais s'il lui arrive un truc et qu'elle va se promener et qu'elle tombe sur quelqu'un de mal intentionné, ce sera ma faute. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai ce genre d'engueulade, je me couche assez tard. Et le matin, j'arrive pas à me lever pour aller à l'école. C'est impossible. J'arrive pas du tout à me lever. J'ai même pas envie de me lever. Je suis encore dans la douleur de cette engueulade. Et ma mère essaie de me réveiller et me dit « C'est l'heure d'aller au lycée. Bouge-toi. » Et j'y arrive pas. Donc je la vire. Je lui dis « Vas-y, lâche-moi. Je veux dormir. » Et ma mère finit toujours par abandonner. Et je ferme les volets, je me recouche et je dors jusqu'à pas d'heure. Je dors jusqu'à 2h, 3h de l'après-midi. Un matin, ma mère me propose de m'emmener à l'école. Elle m'amène en voiture et tout, c'est rare, cool. Bref, je suis plutôt contente, donc je monte dans la voiture. Et je me dis « chouette alors ». Et puis, en fait, ma mère ne m'amène pas à l'école. Je me rends compte sur la route qu'on ne prend pas tout à fait le chemin de l'école. Et je lui dis, mais maman, on va où? Et elle me dit, en fait, on va chez les psys. Parce que ma mère est très obsédée par les psys. Elle est elle-même médecin et elle a un rapport assez spécial à ça. Je me dis, je vais aller encore parler à un énième psy, allons-y. On prend une route que je ne connais pas. Et on arrive devant un hôpital. On monte les étages et je me retrouve devant un psy et ma mère explique la situation. Le médecin, ma première impression, c'est que je l'aime pas. Je l'apprécie pas, il m'écoute pas. Il m'entend pas, il écoute le dialogue, le récit de ma mère. Donc, cette gamine ne va plus à l'école, elle est déscolarisée, elle est suicidaire, j'ai peur qu'elle se suicide. Je sens qu'elle fait une énorme dépression. Moi, je suis débordée par la situation. Je suis moi-même en plein divorce, en pleine dépression. Je ne peux pas gérer. Faites quelque chose. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Et je me retrouve face à ce mec qui ne m'écoute pas, en fait. Il n'écoute que le besoin de ma mère. Et à ce moment-là, je sais que je m'énerve. En fait, j'ai aucune patience. Je me dis, putain, mais c'est quoi ce traquenard? Et je commence à dire, mais je me barre, en fait, je m'en bats les couilles, je veux pas vous parler. Bye, quoi. Je me lève, je commence à hurler sur tout le monde, j'essaye de me barrer, et là, on me retient. La porte est fermée, on me retient. Et là, on m'annonce qu'on va m'hospitaliser. À ce moment-là, je hurle. Mais alors, je hurle, c'est un nom, je traite ma mère de tous les noms, je deviens dingue. Sauf que je comprends que j'ai plus vraiment le choix. C'était un hôpital sur 3 étages. La consultation s'est faite au 1er étage. Et il y avait aussi l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est là où on garde les adolescents. En fait, ils viennent pendant la journée et puis ils repartent le soir. Après, il y avait un 2e étage. Et dans ce 2e étage, c'était les cas sous forme d'urgence. C'est-à-dire qu'on va peut-être les garder une semaine et puis on va les relâcher. Puis il y avait le 3e étage. Les cas longs, en fait. Les gens qu'on garde pour une durée indéterminée. Et on m'amène au 3e étage. Voilà, donc on m'amène à cet étage. Et le seul souvenir que j'ai, c'est de devoir donner mes pièces. En fait, ils font attention à ce que t'aies pas de rasoir, que t'aies pas de choses dangereuses, etc. Et on commence, entre guillemets, à te dépouiller. Et puis on m'explique, en fait, que ça va me faire du bien. Que c'est pour mon bien, qu'il faut qu'il y ait une coupure, une rupture avec ma mère, qu'il faut du temps pour moi, il faut que je me détache de l'école. Que, enfin, on essaye de me faire gober que tout ça, c'est pour mon bien et le bien de ma mère, et qu'on va bien s'occuper de moi. Et je crois que je lâche l'affaire. Je me dis, bon, ok, je vais faire ma semaine et puis ils vont me relâcher. On me montre ma chambre. C'est une toute petite chambre qui n'est pas si glauque que ça, parce que... Enfin, c'est un hôpital assez neuf, au final. J'ai ma propre salle de bain, et le premier truc qui m'interpelle, c'est que j'essaye d'ouvrir la fenêtre de la chambre, et en fait, c'est une fenêtre qu'on ne peut pas vraiment ouvrir, parce qu'on ne veut pas que je saute par la fenêtre, et puis on ne veut pas non plus que je puisse m'étrangler, que je puisse passer ma tête et me donner des coups. Et puis, il y a un salon, en fait, où il y a plein d'adolescents qui sont là, et moi, honnêtement, je ne comprends pas tout à fait ce que je fais là. Et je me demande, mais qu'est-ce que je fais vais faire, en fait. Et on m'explique que je vais faire des activités, mais alors je vais faire des perles, je vais faire des ateliers de prise de parole, enfin, des trucs qui me semblaient mais complètement pathétiques, en fait. Et je me retrouve dans ce salon avec plein d'autres adolescents dont certains comprennent pas plus que moi ce qu'ils font là. Et finalement, je me lie d'amitié, plus ou moins, avec quelques personnes. Celles qui savaient ce qu'elles faisaient là, c'était justement les filles anorexiques. Elles avaient beaucoup plus conscience de leurs problèmes. Et elle racontait, voilà, moi, je dois, avant de sortir, il faut que je gagne 6 kilos. Ou avant de sortir, il faut que je gagne 15 kilos. Ça dépend. Il y a une fille qui est dans une chambre à côté de moi à l'hôpital et qui est anorexique. Et c'est une nana qui cherche à se suicider à longueur de journée. Mais cette fille a une détermination totalement dingue. C'est vraiment, elle est déterminée à mourir. Et on lui a retiré les rasoirs, les couteaux. Enfin, elle ne peut pas vraiment se faire ce qu'elle se faisait d'habitude, c'est-à-dire se scarifier, etc. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a un très, très long couloir dans l'hôpital. Elle prend de l'élan et elle court tout droit dans le couloir et elle va s'écraser contre le mur. Et elle fait ça à répétition jusqu'à ce que les infirmiers arrivent et l'empêchent de le faire. Dans les chambres, on ne peut pas donc totalement ouvrir la fenêtre. Et elle réussit à passer juste sa tête, en fait, à travers la fenêtre, parce qu'elle est très maigre. Elle se donne des coups avec la fenêtre en essayant de la fermer. C'est comme si elle essaye de se cisailler le cou. Et elle fait ça à répétition jusqu'au moment où, en fait, elle le fait tellement fort qu'on l'entend. On entend un crrr, on entend des trucs comme ça. Et les infirmiers arrivent. En fait, elle a trouvé intolérable qu'elle n'ait pas le droit de mourir. Et elle se disait, bon, y a bien une façon, même si on m'a enlevé mes lames, on m'a enlevé tout mon chemin de dégâts, je vais réussir. Dans le même couloir où j'ai ma chambre, il y a un garçon qui a une chambre à côté avec qui je deviens amie. Et ce garçon et moi, on va échanger des petits mots à travers les portes. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va établir une sorte de code à travers le mur. Donc on toquait sur le mur pour parler. On avait établi que 2 tocs, ça voulait dire telle chose, 4 tocs, ça voulait dire autre chose. Et on avait établi cette relation, ce code morse de l'hôpital. Je pensais vraiment pas que j'étais la seule normale. Genre, il y a plein de gens très normaux ici. Et je pensais même qu'on était beaucoup plus normaux que les gens à l'extérieur. Je me disais, ici, en fait, il y a des gens qui sont sensibles. En fait, des gens en souffrance pour des bonnes raisons, en fait. Et au final, même si j'avais pas envie de rester, il y avait un certain réconfort à être avec des jeunes un peu dans le même genre de situation. Mon voisin avec qui j'échangeais des messages et la nuit, etc., je suis même incapable de me souvenir pourquoi il était là. Pour moi, c'était juste un mec normal. Donc voilà. Après, il y avait des événements quand même dans la vie de l'hôpital quand il y en a un qui partait. On faisait une sorte de petite fête. Il y avait toujours une sorte d'émotion. Et ce qui était totalement flippant pour moi, c'est qu'il y en a qui sortaient au bout d'un an ou au bout de 6 mois. Et quand je voyais ça, je me disais, oh là là là, putain. Il y en a aussi qui sortaient au bout d'un mois. Mais la plupart des cas, quand je leur demandais « Mais ça fait combien de temps que t'es là ?» C'était 2, 3, 6 mois, 1 an. Au fil du temps, pour moi, ça y est, je ne voyais vraiment pas l'utilité, plus l'utilité. Et le moment où je suis partie, ça a été un coup de tête total. J'ai pu réavoir des visites. Donc pendant un mois, je n'ai pas eu de visite. Et puis, peu à peu, j'ai eu le droit à avoir mes parents qui viennent me voir. Donc, ma mère est venue me voir, puis mon père est venu me voir. Et je crois que j'étais très en colère contre mon père, parce que j'ai eu l'impression qu'il m'avait foutu là, il ne m'avait même pas appelé, rien du tout. Il est venu, il rentre dans l'hôpital, et il me parle à peine. Il va directement voir les infirmiers, comme si l'information ne devait pas venir de moi, en fait. Comme si l'information à avoir devait venir du corps médical immédiatement. Et à ce moment-là, quand mon père rentre au 3e étage de l'hôpital, du coup, les infirmiers ont ouvert la porte. Je sais pas, ils ont été lui parler dans la salle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pas fermé la porte, les infirmiers. Ils ont oublié. Les autres ados le remarquent. Et ils disent, vous avez vu, la porte, elle est ouverte. Je me dis, attends, la porte, elle est ouverte. Et il y a un moment, je me suis dit, ok. Et je lui ai dit, je me casse. Et ils m'ont dit, vas-y, casse-toi. Et en fait, c'est devenu un truc un peu drôle. Ils m'ont dit « Cap, t'es pas cap, t'es cap, t'es pas cap. » Et je me suis dit « Vas-y, je suis trop cap. » J'ai même pas pris mes affaires. J'ai pris un sweatshirt. Paf, je suis descendue et j'ai commencé à tracer. La porte du 3e étage était ouverte. Donc, j'ai descendu les escaliers à tout va. Et en fait, la porte du 1er étage était toujours ouverte. C'était des sortes de portes automatiques. Et à ce moment-là, je me suis mis à courir, mais comme une dingue. Hein. C'est-à-dire, c'est le plus grand sprint de ma vie. Je ne savais absolument pas ce que j'étais en train de faire. Hein. Je cours, je cours, je cours. Quand je sors de l'hôpital, je regarde à la fenêtre du 3e étage et je vois des ados qui me font coucou comme ça, genre ciao. Bonne chance, quoi, en fait. Et je commence à courir et je me dis bien qu'avec tout le boucan, les infirmiers vont me courir après. Donc, je me mets un peu dans un esprit de course-poursuite dans ma tête et je trace et j'arrive jusqu'au RER. Au RER B, je n'ai pas de ticket, donc j'escalade et tout. Et je prends le premier RER. Et j'ai su ensuite qu'en fait, il y avait les infirmiers qui me coursaient derrière. Sauf que j'ai eu du bol. Le RER arrivait pile poil au bon moment. Puis dans le RER, je ne suis plus dans cet hôpital. J'ai un sentiment de liberté. Je me dis que j'ai largué les infirmiers, que j'ai largué mon psy, que j'ai largué mon père. Mais je ne sais pas trop ce que je fais. Je ne sais pas trop où je vais. Je ne peux pas aller chez ma mère. Je sens que ma mère va me raccompagner en voiture à l'hôpital. Je me doute bien qu'il va y avoir une alerte. Donc, j'arrive dans cette ville de banlieue où j'habitais, parce que je retourne quand même du côté de chez ma mère. Je ne vais pas me promener ailleurs. Je vais de ce côté-là, parce que c'est là que je connais, quoi. Et j'arrive à contacter des amis par téléphone, où je demande à quelqu'un son téléphone portable. Et je contacte cette amie qui s'appelle Vanessa, qui a une maison dans cette même ville et qui me propose de venir chez elle. Vanessa, c'est une copine que je me suis fait au collège un an et demi avant, avec qui je suis pas ultra proche, mais c'est la seule qui avait un grenier avec un lit. Et en fait, c'est pas elle que j'ai appelée au tout départ, c'est une autre fille qui s'appelle Annelise. Et Annelise est très amie avec Vanessa. Annelise, en fait, me couvre et cherche une solution pour moi. C'est comme ça que j'atterris chez Vanessa. Donc, j'arrive chez Vanessa. Elle va me cacher, entre guillemets, pendant quelques jours. Donc moi, je suis dans le grenier de chez Vanessa et pendant la journée, Vanessa va à l'école et les parents de Vanessa vont au boulot. Les parents de Vanessa, surtout, ils n'ont aucune idée que je me cache dans le grenier. Une fois que les parents sont partis au travail, moi, je descends, je regarde la télé, je vais prendre des céréales dans le placard. Enfin, voilà, je fais ma vie. Et après les cours, j'ai quelques amis qui viennent me voir. Donc, j'ai 3-4 amis qui sont au courant de la situation. Au bout d'un jour ou deux, je décide quand même d'appeler ma mère parce que j'ai de l'empathie pour elle et je sais très bien que c'est quelqu'un de très angoissé et que cette disparition de l'hôpital a dû la mettre dans tous ses états, ne sachant pas où j'avais disparu et ne sachant pas ce que j'allais faire de moi-même. Donc, je prends la décision de l'appeler d'une cabine téléphonique parce que je ne voulais pas non plus qu'elle puisse pister où j'étais. En vrai, j'ai un peu un sentiment de pouvoir, dans le sens où je sais très bien dans quel état elle doit être. Je me sens forte d'être partie d'une situation qui ne me convenait pas, mais j'ai très peur qu'elle m'y remette. Je lui dis « Maman, tout va bien, t'inquiète pas. Je suis juste partie de l'hôpital, en fait, je ne veux plus y aller, je ne veux pas y rester, je ne veux juste plus être là. » Et ma mère, sa première réaction, c'est de m'engueuler, mais comme du poisson pourri, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'as planté ton père est furax, il est comme un fou, tu lui as foutu la honte. Il y a la brigade des mineurs qui te cherche, tu te rends pas compte, qu'est-ce que tu nous fais ?» Elle était mal, elle pleurait au téléphone et tout. Et moi, je lui ai dit « Écoute, maman, c'est simple, je reviens à la maison si tu signes les papiers, comme quoi je sors de l'hôpital. » Et elle me dit « Tu rentres tout de suite, je te ramène à l'hôpital !» Je dis « Mais tu rêves, en fait, si c'est pour ça, je ne reviens pas. » Et puis, je raccroche. Peut-être un jour après, je l'ai quand même rappelé. Et à ce moment-là, je lui dis que je veux rentrer à la maison, mais seulement si elle me jure, si elle me promet que je ne retournerai pas à l'hôpital, si elle signe les papiers pour ma sortie de l'hosto. Et elle accepte. Je retourne chez ma mère et les choses ne s'arrangent pas. Enfin, la relation avec ma mère est toujours la même vu que j'estime pas qu'elle a fait un travail sur elle pendant ce temps-là et j'estime pas vraiment qu'il y ait eu un travail sur moi qui ait beaucoup fonctionné. Donc, on tourne pile poil dans les mêmes mécanismes. L'hôpital, ça a juste été une sorte de coupure dans le temps, mais la réalité, c'est toujours la même. Au lycée aussi, c'est très compliqué parce que les gens ont été mis au courant que j'étais à l'hôpital en psychiatrie. Ils l'ont appris parce que certains amis étaient au courant, certains amis qui n'ont sans doute pas pu se retenir de le dire. Donc tout le monde est au courant. Les gens me considèrent un peu comme un ovni et à cet âge-là, on ne sait pas trop ce que c'est, l'hôpital psychiatrique. On a vu ça dans des films, on pense que c'est un truc complètement dingue, pour les gens complètement tarés. Enfin, les gens se font des films sur moi. Un jour, je rentre du lycée je me sens prise d'un grand mal-être et je vois plus. En fait, je vois plus où je vais, tout simplement. Je vois plus d'avenir pour moi-même. J'arrive pas à penser plus loin que demain et demain, ça a pas l'air bien. Je me mets à pleurer, je me mets à paniquer. Et ma mère a toujours énormément de médicaments, d'anxiolytiques, etc. dans les placards. Et je décide de tout avaler. Donc, mais ça a été vraiment rapide. Hein, dans ma tête, en l'espace de 2 heures, j'avais pris cette décision. Et j'ai pris tout ce qui était possible, tous les Lexomil que j'ai trouvés, des aspirines, des antidépresseurs qui étaient là depuis je ne sais pas combien d'années, qui devaient peut-être être même à ma mère ou à d'autres gens, je ne sais pas. Donc j'ai tout pris. Et puis, j'ai commencé à me sentir crevée, fatiguée, et puis je suis tombée par terre. Mon dernier souvenir, c'est de m'être écroulée par terre de fatigue, en fait, à cause de tous ces médicaments. Et c'est ma petite sœur qui va rentrer de l'école un peu après moi, qui va me trouver par terre et qui va appeler les urgences, qui va appeler l'ambulance pour qu'on vienne me chercher. J'étais endormie, mais j'étais consciente quand même. C'est-à-dire que je me rappelle de l'ambulance, enfin, je me rappelle des mecs qui sont venus me chercher, qui m'ont soulevée. j'entendais en fait les bruits autour de moi, mais je pouvais pas me réveiller. J'étais tellement crevée que je pouvais pas dire en fait, je suis encore là. Et j'ai su qu'on m'amenait à l'hôpital et on m'a fait une sorte de lavement de l'estomac. Je me suis reposée à l'hôpital et quand je me suis réveillée, ma mère m'a engueulée encore une fois. Après la tentative de suicide, je retourne chez ma mère, comme d'habitude, où je finis toujours par revenir. Et il y a quelques mois qui passent. Et un jour, je retrouve sur mon lit une lettre de convocation au tribunal. Je me dis, ah, c'est pas vrai, ils ont osé. Parce que ma mère et mon père me menaçaient plus ou moins depuis un petit moment. De m'éjecter de la maison, de me mettre dans un foyer, dans un centre d'accompagnement pour ados en difficulté. Enfin, et moi, je pensais que c'était une grande blague, ça. Je me disais, mais en fait, déjà, je ne comprenais pas ce que c'était un foyer. Je croyais qu'un foyer, c'était la DAS. Et je me disais, mais en fait, vous ne pouvez pas me faire adopter maintenant, vous dites n'importe quoi. Et je pensais que c'était une menace dans le vent. Et un jour, je reçois cette lettre et je me dis, ah putain, merde. Là, maintenant, il va falloir aller devant le juge. Et je ne comprends pas tout à fait ce que j'ai fait de mal. Parce que pour moi, aller devant un juge, ça voulait dire être une vraie délinquante. Sauf que je n'étais pas une délinquante. Donc, arrive le jour de la convocation. C'est un moment extrêmement difficile parce que mes parents ont divorcé depuis déjà depuis pas mal d'années. Et ils ne se sont pas revus depuis le divorce. Ils ne peuvent pas se saquer. Donc déjà, j'ai les deux parents qui sont là. Ils s'engueulent avant même le début de la séance sur d'autres problématiques d'argent qu'ils ont entre eux. Et surtout, j'ai le sentiment d'être le fantôme, le poids de cette relation qui ne devrait plus exister entre eux. Donc voilà, je me retrouve devant ce juge et un gros monsieur un peu... qui semble un peu sévère au départ. Et donc là, comme d'habitude, j'entends mon père et ma mère raconter leur version des faits. Et moi, j'explique la mienne, mais la mienne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tellement d'importance. Et comme d'habitude, eux, ils expliquent que je suis quelqu'un qui ne va pas bien, que je suis une adolescente violente, sans jamais mentionner qu'eux-mêmes ne sont pas des gens qui sont très sains ni très bien psychologiquement. Donc, tout me retombe dessus. Et moi, il y a un moment, je ne peux plus entendre ça. Je ne peux plus les écouter donner leur version des faits. Et je ne sais pas, à ce moment-là, j'ai un éclair de lucidité et je dis au monsieur, écoutez, est-ce que je peux vous parler toute seule? Et il m'écoute. Il se fait sortir mes parents. Et là, à ce moment-là, je lui explique au juge, je lui ai dit, écoutez, monsieur, si vous mettez dans un foyer, une structure d'accompagnement ou si vous me remettez même à l'hôpital, sachez que si je deviens une délinquante, vous l'aurez sur vos épaules. Dans le sens où aujourd'hui, je suis pas délinquante, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vole pas. C'est juste que je suis dans une situation familiale nocive et que j'arrive pas à grandir, j'arrive pas à évoluer dans ce contexte. Et il m'écoute. Et il me dit, bah, alors c'est quoi la solution? Je lui dis, la solution, c'est pas de me mettre dans un foyer, c'est peut-être, en fait, juste que j'habite seule. Juste que je prenne mon indépendance plus tôt. Je devais avoir, au moment du tribunal, 16 ans et demi, 17 ans. Et je lui dis, la meilleure solution, c'est peut-être tout simplement que... Parce que mon père donnait une pension alimentaire à ma mère pour le divorce. Je lui dis, pourquoi cette pension alimentaire ne me reviendrait pas? Et en fait, je prendrais un appartement toute seule. Et puis c'est tout, en fait. Et puis en fait, la grande surprise, c'est qu'il me dit, très bien, je vous ai entendu, on va reparler avec vos parents. Finalement, on reparle, on se retrouve à trois devant lui. Et puis en fait, il a fermé le clapet un peu à mes parents, c'est-à-dire qu'il a dit, en fait, non, on ne va pas du tout la mettre en foyer, ça, c'est pas envisageable. On ne va pas non plus faire ce truc d'appartement aménagé. En fait, je pense que votre fille, elle peut très bien se débrouiller toute seule. Donc, ce que je recommande, c'est qu'en fait, elle prenne un studio dans quelques mois et qu'elle habite toute seule et que l'argent qui est versé à la mère soit versé directement à la fille. Moi, je me suis dit, waouh, pour une fois, il y a un adulte qui m'écoute, en fait. On m'écoute, c'est incroyable. On m'écoutait jamais. Là, c'était un miracle, ce type. Et pourtant, c'était mal barré. Hein. Je suis partie en me disant, je suis dans une merde, mais alors noire, noire, noire. Vraiment, c'est la cata. Et puis, j'ai l'impression qu'on veut me mettre à la poubelle. Et là, non, en fait, il m'a écouté et il a rendu un verdict qui était bah, en fait, beaucoup plus proche de ce que moi je voulais que ce que mes parents voulaient. Et cette pension alimentaire, j'avais cette chance, c'est qu'elle était suffisante pour non seulement payer un petit studio, mais aussi payer la nourriture, etc. Je vais être responsable de moi-même de A à Z. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un studio et que je commence une vie d'adulte, en fait, à 17 ans à peine. Donc ma mère et moi, on va commencer à rechercher des studios. On va trouver un studio et puis on va faire le truc classique. On va aller chez Ikea, on va acheter des meubles. Elle va me montrer comment cuisiner deux, trois trucs. J'ai quand même été finalement soutenue dans cette décision. Et peu à peu, je vais m'installer dans cette villa. Je vais continuer à voir mes parents, mais pas tous les jours. Tous les deux, trois jours, je vais peut-être voir ma mère. De temps en temps, je vais voir mon père. Mais je commence à me sentir beaucoup mieux, en fait, quand je suis toute seule. Je commence aussi à retourner à l'école. Donc, à ce moment-là, ma mère comprend que l'important, c'est pas que j'aille forcément au lycée, parce que j'en étais pas capable à ce moment-là. C'était juste de reprendre une activité qui me plaît. Donc, pendant un an, je vais faire des cours de dessin. Tous les jours, je vais dans une école de dessin et je vais peu à peu reprendre goût à la vie, tout doucement. Je vais reprendre confiance en moi. Je vais me rendre compte que je suis capable d'être fonctionnelle toute seule. Je vais arrêter de dormir jusqu'à pas d'heure parce que j'ai envie d'aller faire ces cours de dessin. Et peu à peu, je vais reprendre espoir en l'avenir. Tout d'un coup, j'arrive à voir plus loin que demain et la dépression se dilue. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, et là où on aurait pu croire que j'allais devenir une délinquante ou quelqu'un qui allait peut-être pas réussir à faire des études ou qui allait retomber en dépression à longueur de temps, et ben en fait c'est pas vrai, c'est pas le cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un poste à responsabilité, j'ai une vie tout à fait normale, j'estime pas être quelqu'un de violent. Enfin, je ne suis plus du tout suicidaire comme je l'étais à l'époque. Ensuite, j'ai encore des hauts, des bas, c'est-à-dire que ça marque quand même. Mais ce moment-là de ma vie n'a absolument pas défini la suite. C'était juste un passage difficile. Tu peux t'égarer un moment, et puis c'est pas grave. Ce que j'ai réalisé dans toute cette histoire, c'est que parfois, tu as juste besoin d'être écouté, entendu, et il n'y a pas besoin d'action derrière. Et c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'essaye de faire avec les gens. Par exemple, quand quelqu'un va mal et se confie à moi, j'essaye de réfléchir à ça et de ne pas forcément lui donner des conseils ou lui dire « il faut que tu fasses ça pour aller mieux, machin, truc ». En fait, la personne va juste aller mieux du fait que je l'écoute et je me taise pendant une heure et que je reçoive l'information. Et quand quelqu'un ne m'écoute pas, ça continue à me mettre très, très en colère. Quelques années après mon petit passage à l'hôpital en pédopsychiatrie, je me suis retrouvée dans le RER face à un mec qui était aussi un adolescent qui était interné à ce moment-là. Et on s'est retrouvés face à face et on s'est reconnus parce qu'on s'est regardé dans les yeux, on s'est fixé. Et puis en fait, on ne s'est pas parlé. Le trajet est passé et on savait tous les deux ce qu'on avait vécu, mais on n'a rien dit. Et je pense qu'il y avait une forme de respect et même de poésie. On était sortis du creux de la vague, quoi, on va dire.
Cet épisode était signé Cyrielle Bédu sur une musique de David Aknin et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si vous-même vous avez des histoires que vous avez envie de nous raconter, d'entendre dans Transfert, écrivez-nous à podcast@slate.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag TransfertPodcast sur les pages de Slate France ou sur mon compte @chapudlo sur Instagram, @chapudlovski sur Twitter. À très vite.
Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.